à recevoir aussi ce qu'elle veut dire pour nous. Saint-Esprit, je te demande vraiment de souffler dans nos cœurs afin que, même si nous connaissons ces textes, nous puissions être saisis par toi pour comprendre la profondeur et la puissance de l'œuvre de la croix. Saisis-nous encore, que nous ne soyons pas blasés ou lassés de ces textes. Mais alors que nous allons lire ces versets, Saint-Esprit vient dans les profondeurs du cœur de chacun pour nous faire comprendre, goûter quelle est la puissance, la profondeur de l'amour de Jésus pour nous au travers de ces heures que tu as passées, Jésus, avant la croix. Amen. Une petite chose avant de commencer, vous savez qu'on parle de la passion du Christ, donc c'est encore une fois les heures qui ont précédé sa crucifixion. Vous savez peut-être que le mot passion, c'est un faux ami en quelque sorte, parce que ça ne désigne pas le zèle de Jésus, ou son enthousiasme, bien que le texte n'en manque pas bien sûr. Mais c'est le mot passion à prendre au sens premier, c'est-à-dire le mot souffrance. Parce que le mot passion vient du latin, du verbe latin passior, qui signifie souffrir, subir un supplice. Donc quand on parle de la passion de Christ, on devrait parler de la souffrance de Christ. Et j'ai même intitulé ce message, pour bien comprendre jusqu'où ça va, l'agonie de Christ. Et donc je vais commencer à lire le texte biblique et on va commencer au jardin de Gethsémané. Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, sur le mont des Oliviers, où se trouvait un jardin, un lieu appelé Gethsémané, dans lequel il entra, lui et ses disciples. Il leur dit « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, et il commença à être envahi d'une profonde tristesse. Et l'angoisse le saisit. Alors il leur dit « Je suis accablé de tristesse à en mourir. Restez ici. » « Éveillez avec moi. » Puis il s'éloigna d'eux et s'étant mis à genoux, il pria, disant « Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. » Un ange venu du ciel lui apparut et le fortifia. L'angoisse le saisit. Sa prière se fit de plus en plus pressante. Sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Après avoir ainsi prié, il se releva, s'approcha des disciples, il les trouva endormis, tant ils étaient accablés de tristesse. Pourquoi dormez-vous ? leur dit-il, debout et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Ô mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe me soit épargnée, s'il faut que je la boive, alors que ta volonté soit faite. » Il revint encore vers ses disciples et les trouva de nouveau endormis, car ils avaient tellement sommeil qu'ils n'arrivaient pas à garder les yeux ouverts. Il les laissa donc et s'éloigna de nouveau. Pour la troisième fois, il pria en répétant les mêmes paroles. Lorsqu'il revint auprès de ses disciples, il leur dit « Vous dormez encore ?» et vous vous reposez. L'heure est venue où le Fils de l'homme va être livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous et allons-y. Celui qui me trahit est là. Il n'avait pas fini de parler que Judas, l'un des 12, survint, accompagné d'une troupe nombreuse, armée d'épées et de gourdins. Cette troupe était envoyée par les chefs des prêtres et les responsables du peuple. Jésus, qui savait tout ce qui allait lui arriver, s'avança vers eux et leur demanda « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent « Jésus de Nazareth. » « C'est moi, » leur dit-il. Au moment même où Jésus leur dit « C'est moi », ils eurent un mouvement de recul et tombèrent par terre. Une seconde fois, il leur demanda « Qui cherchez-vous ? » « Jésus de Nazareth, » répétèrent-ils, « je vous ai dit que c'était moi, » reprit Jésus, « puisque c'est moi que vous venez chercher, laissez partir les autres. » Ainsi s'accomplit cette parole qu'il avait prononcée peu avant, « je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Le traître avait convenu avec la garde d'un signe en disant « Celui que j'embrasserai, c'est lui, saisissez-vous de lui. » Il se dirigea donc tout droit sur Jésus et lui dit « Bonsoir, maître. » Et il l'embrassa. « Mon ami, lui dit Jésus, ce que tu es venu faire ici, fais-le. » Alors les autres s'avancèrent et mettant la main sur Jésus, se saisirent de lui. Simon-Pierre, qui avait une épée, la dégaina, en donna un coup au serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée au fourreau. Ne dois-je pas boire la coupe de souffrance que le Père m'a destinée ? Tous ceux qui se serviront de l'épée mourront par l'épée. Penses-tu donc que je ne pourrais pas faire appel à mon Père ? À l'instant même, il enverrait des dizaines de milliers d'anges à mon secours. Mais alors, comment les Écritures qui annoncent tout ce qui doit se passer ainsi s'accompliraient-elles ? Là-dessus, Jésus dit à la troupe, « Me prenez-vous pour un bandit pour que vous soyez venus en force avec des épées et gourdins afin de vous emparer de moi ? J'étais assis chaque jour dans la cour du temple pour donner mon enseignement et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout ceci est arrivé pour que les écrits des prophètes s'accomplissent. Maintenant, c'est votre heure et les ténèbres vont exercer leur pouvoir. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. » Je ne sais pas vous, mais quand je pense à cette scène, à ce moment qu'a vécu Jésus, je suis saisi par la solitude dans laquelle il s'est retrouvé. Ce qu'il faut imaginer, c'est qu'il y avait bien sûr ses disciples qui le suivaient déjà depuis plusieurs années. Il y avait aussi des foules qui venaient pour le voir. Et à peine quelques jours avant, Jésus était rentré dans Jérusalem, assis sur un ânon, triomphant. Et quelques jours à peine après, il se retrouve seul dans ce jardin face à sa mission ultime, celle de prendre sur lui le péché de l'humanité. Et personne ne l'accompagne sur ce chemin. Et même lui a le souci jusqu'au bout de dire « Je veux faire ce que mon Père veut que je fasse. » Sa volonté. Il soumet sa volonté à celle de son Père, bien que ce soit tellement, tellement difficile. Il fait ce qu'il doit faire, même si les autres ne le suivent pas. Même s'il s'endorme, même s'il s'enfuit. Je suis bouleversé quand je vois à quel point Jésus a eu le souci de faire ce qui était annoncé, écrit. Il ne voulait pas renoncer, il voulait que les Écritures s'accomplissent jusqu'au bout. Et il n'a pas renoncé. Alors qu'il savait qu'à cet instant-là, les ténèbres allaient se déchaîner contre lui. On va continuer la lecture. Alors la cohorte et les gardes des Juifs s'emparèrent de Jésus et le conduirent enchaîné. Ils l'emmenèrent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui les spécialistes de la loi et les responsables du peuple s'étaient déjà rassemblés. Pierre le suivit à distance, jusqu'au palais du grand prêtre, et entra dans la cour où il s'assit au milieu des gardes pour voir comment tout cela finirait. Le chef des prêtres et le grand conseil au complet cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour pouvoir le condamner à mort. Mais bien qu'un bon nombre de faux témoins se fussent présentés, ils ne parvenaient pas à trouver un motif valable. Finalement, il en vint tout de même deux qui déclarèrent « Cet homme a dit « Je peux démolir le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Alors le grand prêtre se leva et demanda à Jésus « Tu n'as rien à répondre au témoignage qu'on vient de porter contre toi ?» Jésus garda le silence. Alors le grand prêtre reprit en disant « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous déclarer si tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit toi-même. De plus, je vous le déclare, à partir de maintenant, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir en gloire sur les nuées du ciel. » À ces mots, le grand prêtre déchira ses vêtements en signe de consternation et s'écria, « Il vient de prononcer des paroles blasphématoires. Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Vous venez vous-même d'entendre le blasphème. Quel est votre verdict ?» Ils répondirent, « Il est passible de mort. » Alors ils lui crachèrent au visage et le frappèrent. D'autres le giflèrent en disant, « Eh, Messie, fais le prophète. Dis-nous qui vient de te frapper. » Et ils l'accablaient d'injures. Pendant ce temps, Pierre était dans la cour intérieure. Une servante s'approcha de lui et dit « Toi aussi, tu étais avec le Galiléen ?» Mais Pierre le nia en disant devant tout le monde « Je ne vois pas ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers le porche pour sortir, une autre servante l'aperçut et dit à ceux qui étaient là « En voilà un qui était avec ce Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau et il jura « Je ne connais pas cet homme. » Après un petit moment, ceux qui se tenaient dans la cour s'approchèrent de Pierre et lui dirent « C'est sûr, toi aussi tu fais partie de ces gens. C'est évident, il suffit d'entendre ton accent. » Alors Pierre se mit à dire « Je le jure, et que je sois maudit si ce n'est pas vrai, je ne connais pas cet homme. » Et aussitôt, un coq chanta. Alors Pierre se souvint de ce que Jésus lui avait dit, « Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Pierre se glissa dehors et se mit à pleurer amèrement. L'aube s'était levée. L'ensemble des chefs des prêtres et les responsables du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire condamner à mort. Ils le firent lier et le conduisirent chez Pilate, le gouverneur, pour le remettre entre ses mains. Pilate sortit du palais pour les voir et leur demanda « De quoi accusez-vous cet homme ?» Ils lui répondirent « S'il n'avait rien fait de mal, nous ne te l'aurions pas livré. »« Reprenez-le répliqua Pilate, et jugez-le vous-même d'après votre loi. Mais ils lui répondirent, nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. La parole par laquelle Jésus avait annoncé quelle mort il allait subir devait ainsi s'accomplir. Pilate rentra donc dans le palais de justice et fit comparaître Jésus. « Es-tu le roi des Juifs ?» lui demanda-t-il. « Dis-tu cela de toi-même ou d'autres t'ont-ils dit cela à mon sujet ?» répondit Jésus. « Est-ce que je suis juif, moi ?» répliqua Pilate. « Ce sont ceux de ta nation et les chefs des prêtres qui t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus lui répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume appartenait à ce monde, mes serviteurs se seraient battus pour que je ne tombe pas aux mains des chefs des Juifs. Non, réellement, mon royaume n'est pas d'ici. « Es-tu donc roi ?» reprit Pilate. « Tu le dis toi-même, je suis roi. Je suis né, et si je suis venu dans ce monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Celui qui appartient à la vérité, écoute ce que je dis. « Qu'est-ce que la vérité ?» lui répondit Pilate. Là-dessus, il alla de nouveau trouver les Juifs en leur disant « En ce qui me concerne, je ne trouve chez cet homme aucune raison de le condamner. Il est d'usage que je vous relâche un prisonnier à l'occasion de la fête de la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs ?» Ils lui répondirent en criant « Non, pas lui, Barabbas !» Or, Barabbas était un bandit. Ce Barabbas avait été mis en prison pour une émeute qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Mais Pilate, qui désirait relâcher Jésus, adressa de nouveau la parole à la foule qui se mit à crier « Crucifie-le ! Crucifie-le !» Mais enfin, leur demanda-t-il pour la troisième fois, « Qu'a-t-il fait de mal ? Je n'ai trouvé en lui aucune raison de le condamner à mort. Je vais donc lui faire donner le fouet puis le remettre en liberté. » Mais ils devinrent de plus en plus pressants et exigèrent à grands cris sa crucifixion. Finalement, leurs cris l'emportèrent. Quand Pilate vit qu'il n'aboutissait à rien, mais qu'au contraire, l'agitation de la foule augmentait, il prit de l'eau devant la foule, se lava les mains en disant « Je ne suis pas responsable de la mort de cet homme. Cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit « Que la responsabilité de sa mort retombe sur nous et nos enfants. » Alors Pilate relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit battre à coups de fouet. Et il le livra pour qu'on le crucifie. Je ne sais pas si vous savez, mais le fouet romain était constitué avec des nerfs de bœuf auxquels on attachait des morceaux d'os pour que le coup de fouet soit terrible. Jésus passe donc devant deux tribunaux, le tribunal religieux des gens de son époque et puis le tribunal militaire ou civil. Et il fait face aux ténèbres des gens de son époque. Et je ne peux pas m'empêcher de penser Mais qu'est-ce que ressentait Jésus à ce moment-là? Quand, je veux dire, les religieux de l'époque avaient les prophéties. Ils savaient qu'un Messie devait venir. Ils avaient l'autorité sur le peuple. Tout ce qu'il fallait pour reconnaître Jésus. Mais ils l'ont condamné. Je pense que Jésus a dû être vraiment très triste de ça. Même s'il savait très bien que ces choses-là devaient arriver, c'est toujours plus difficile, n'est-ce pas, quand on est rejeté par ceux qui sont censés être proches de Dieu, finalement. Et puis Jésus fait face au monde, à l'esprit du monde, incarné, manifesté par Pilate, qui ne sait pas trop quoi faire avec Jésus. C'est un peu le cas du monde dans lequel nous sommes, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Qui est-il? Es-tu? Existes-tu? Es-tu vraiment roi ou est-ce que tu es une arnaque? Qui es-tu vraiment? Et le monde se lave les mains des fautes qu'il commet, comme si on pouvait mettre les mains dans l'eau et dire « c'est pas ma faute, c'est pas ma faute ». Et finalement, qu'est-ce que c'est l'esprit du monde? C'est cet esprit qui va céder sous la pression populaire. Je veux pas d'ennui, je veux pas de problème, je veux pas d'émeute. Alors finalement, je fais pas ce qui est juste, mais c'est pas grave. Faites. Laissez-moi tranquille. Je vais faire ce que vous voulez. On va lire la dernière partie. Ça va? Ok. Les soldats du gouverneur traînèrent Jésus vers l'intérieur du palais et rassemblèrent toute la cohorte autour de lui. Ils lui arrachèrent ses vêtements et le revêtirent d'un manteau écarlate. Ils lui posèrent sur la tête une couronne tressée de rameaux épineux. Dans sa main droite, ils placèrent un roseau en guise de sceptre. Ils s'agenouillèrent devant lui en disant sur un ton sarcastique « Salut, roi des Juifs !» Il crachait sur lui et prenant le roseau, le frappait à la tête. Quand ils eurent fini de se moquer de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Une foule de gens du peuple le suivait. Il y avait aussi beaucoup de femmes en larmes qui se lamentaient à cause de lui. Se tournant vers elles, Jésus leur dit « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas à cause de moi. Pleurez plutôt à cause de vous-même et de vos enfants. » Jésus, portant lui-même sa croix, sortit de la ville pour se rendre à l'endroit appelé « lieu du crâne », en hébreu « Golgotha ». C'est là qu'on cloua Jésus sur la croix, ainsi que deux bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Jésus pria « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Pilate fit placer un écriteau que l'on fixa au-dessus de la croix. Il portait cette inscription « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Comme l'endroit où Jésus avait été crucifié se trouvait près de la ville, beaucoup de Juifs lurent l'inscription écrite en hébreu, en latin et en grec. Les chefs des prêtres protestèrent auprès de Pilate. Il ne fallait pas mettre le roi des Juifs, mais cet homme a dit « Je suis le roi des Juifs ». Pilate répliqua « Ce que j'ai écrit restera écrit ». Lorsque les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses vêtements et en firent quatre parts, une pour chacun d'eux. Restait la tunique qui était sans couture, tissée tout d'une seule pièce de haut en bas. Les soldats se dirent entre eux, « Au lieu de la déchirer, tirons-la au sort pour savoir qui l'aura. » C'est ainsi que s'accomplit cette prophétie de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré ma tunique au sort. C'est exactement ce que firent les soldats. Ceux qui passaient par là lancèrent à Jésus, qui est sur la croix, des insultes en secouant la tête et criant « Hé, toi qui démolis le temple et le reconstruis en trois jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » De même, les chefs des prêtres se moquaient de lui, avec les spécialistes de la loi et les responsables du peuple en disant « Dire qu'il a sauvé les autres et qu'il est incapable de se sauver lui-même, c'est ça le roi d'Israël ? Qu'il descende donc de la croix, alors nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu ? Eh bien, si Dieu trouve son plaisir en lui, qu'il le délivre. » N'a-t-il pas dit « Je suis le Fils de Dieu » Les soldats aussi se moquaient de lui. Ils s'approchaient et lui présentaient du vinaigre en lui disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » L'un des deux criminels attachés à une croix insultait Jésus en disant « N'es-tu pas le Messie ? Alors sauve-toi toi-même et nous avec !» Mais l'autre lui fit des reproches en disant « Tu n'as donc aucun respect pour Dieu. Toi, et pourtant tu subis la même peine. Pour nous, ce n'est que justice. Nous payons ce que nous avons fait. Mais celui-là n'a rien fait de mal. » Puis il ajouta « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Et Jésus lui répondit, « Vraiment, je te l'assure, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » À partir de midi et jusqu'à 3 heures de l'après-midi, le pays entier fut plongé dans l'obscurité. Vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte « Élie ! Élie ! Lama sabachthani ? » Ce qui veut dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En entendant ces paroles, certains de ceux qui se trouvaient là s'exclamèrent « Il appelle Élie ! » L'un d'entre eux courut aussitôt prendre une éponge qu'il imbiba de vinaigre et piqua au bout d'un roseau. Il la présenta à Jésus pour qu'il boive. Quand les autres lui dirent « Attends, on va bien voir si Élie vient le délivrer. » Après cela, Jésus, sachant que désormais tout était achevé, Dis pour que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Près de là se trouvait un vase rempli de vinaigre. On attacha donc une éponge imbibée de ce vinaigre au bout d'une branche d'hysope et on l'approcha de la bouche de Jésus. Quand il eut goûté le vinaigre, il dit « Tout est accompli. » Le soleil resta entièrement caché. Le grand rideau du temple se déchira par le milieu. La terre trembla, les rochers se fendirent. Alors Jésus poussa un grand cri. « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Il pencha la tête et rendit l'esprit. En voyant le tremblement de terre et tout ce qui se passait, l'officier romain et les soldats qui gardaient Jésus furent saisis d'épouvante et dirent « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » L'un des soldats lui enfonça sa lance dans le côté et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui rapporte ces faits les a vus de ses propres yeux et son témoignage est vrai. Il sait parfaitement qu'il dit la vérité pour que vous aussi, vous croyez. Si tu veux une définition de l'amour, ne va pas au dictionnaire, va au calvaire. Jésus aura dit, à peine quelque temps avant que tout cela ne se produise, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Beaucoup de gens parlent de l'amour, mais quels sont ceux qui le manifestent? Quels sont ceux qui vont jusqu'au bout de ce que ça veut dire. Voilà l'exemple que Jésus nous a donné. Voilà ce que c'est aimer. Et à cette occasion de Pâques, je crois vraiment que Jésus veut te rappeler, nous rappeler, la puissance de l'amour qu'il a pour toi. Et toi, quelle est ta réponse ? À la croix, quand tu vois le crucifié. Est-ce que tu mesures ce que ça veut dire d'être disciple du Christ ? Qui parmi vous porte une croix aujourd'hui sur lui ? Vous pouvez lever la main, ceux qui ont une croix sur ceux qui ont une croix peut-être autour du cou ou quelque chose, il y en a quelques-uns. C'est pas un bel objet la croix. C'est un objet de supplice, c'est un objet d'agonie, c'est un objet de torture. C'est un peu comme si vous portiez une chaise électrique ou une corde de pendu ou une guillotine sur vous. C'est bizarre, hein ? Mais bien sûr, c'est parce que vous avez compris et saisi que la croix, c'est plus que ça. C'est le geste d'amour le plus grand de toute l'histoire. Et ce geste d'amour, il l'a fait pour toi. Alors, comment regardes-tu la croix ? Qui es-tu dans cette histoire ? Moi, je ne sais pas vous, mais je suis un peu tous les gens qui étaient autour. À certains moments, je suis Pierre. Jésus, j'irai avec toi jusqu'à la mort. Et puis parfois, quand ça devient difficile, je le renie par mes attitudes. Ou je le suis, mais je regarde de loin pour voir ce qu'il va se passer. Parfois, je suis les chefs religieux. Par ma religiosité, par mes critiques envers mes frères et sœurs, par le fait peut-être d'être un obstacle des fois, par mes raisonnements ou par mes vérités que je sais que je ne veux pas changer, mes choses qui sont déjà bien planifiées, bien ordonnées et que Jésus vient bouleverser. Par le fait que je me préoccupe peut-être plus de mon petit précaré que de ce que Jésus veut vraiment que je fasse pour lui et avec lui. Je suis parfois Pilate. Écoute, Jésus, c'est bien ce que tu as fait, mais ça ne me concerne pas trop. Moi, je préfère la popularité du monde. Je préfère pas trop faire de vagues. Parfois, je suis le bandit qui fait des reproches à Jésus. Mais mince, pourquoi tu n'interviens pas ? Pour moi, descends de cette croix. Fais des miracles pour moi. Et puis, j'aime à croire que finalement, je suis peut-être le brigand. J'ai été un brigand toute ma vie, j'ai rejeté Jésus toute ma vie, j'ai péché toute ma vie, j'ai commis toutes sortes d'actes pas très glorieux. Et je mérite d'être sur la croix. Je mérite d'être puni. Et puis, un jour, j'ai tourné mes regards vers cet homme crucifié qui n'avait rien fait, mort injustement. Et je lui ai fait cette prière. Jésus, si tu veux bien, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. Croyant, croyant en lui. Et croyant qu'il va me répondre et qu'il va peut-être te répondre si tu fais la même prière, vraiment, je te l'assure, tu seras avec moi dans le paradis. Je vous invite à fermer les yeux et je vais faire une petite prière, mais ce qui compte le plus, c'est peut-être votre réponse à la croix. Vous contemplez au travers des Écritures, au travers de ces quelques images, vous contemplez le Christ crucifié. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? Jésus, Maître, comment mesurer l'étendue de l'amour ? L'amour parfait, l'amour qui se donne. L'amour qui vient alors que tu as quitté ta gloire pour venir dans la plus humble des enveloppes charnelles, pour souffrir, pour agoniser seul, trahi, nu, frappé, humilié, mais tout en sachant qu'une mission devait être accomplie. Que la volonté de ton Père devait être accomplie à la croix. Alors oui, l'amour l'a emporté sur tout cela. Merci pour l'exemple de l'amour parfait. C'est très loin de l'image de l'amour que le monde donne. Mais c'est ça, l'amour véritable. C'est l'amour ensanglanté de mon Sauveur, les bras grands ouverts, cloués sur cette croix, souffrant, agonisant, prenant sur lui à ma place le juste jugement de mes fautes. Merci Jésus de ne pas avoir renoncé, d'avoir bu cette coupe de souffrance jusqu'à la lie pour que j'aie la vie. Seigneur, viens examiner mon cœur pour qu'en retour je te fasse une prière maintenant par rapport à ce que ce texte me dit et ce que ton esprit me dit au travers de ce récit de ton agonie. Peut-être que j'ai des choses aussi à revoir, mais surtout, j'ai une grâce à recevoir. Et j'ai envie de te parler, Jésus, et de te dire, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Prenons quelques instants et vraiment, je vous invite, là où vous en êtes, à faire votre prière. Si tu ne connaissais pas Jésus et que tu n'avais jamais entendu parler de ça jusqu'à aujourd'hui, peut-être que tu te reconnaîtras effectivement dans celui qui est venu et qui a dit « Oui, je veux donner ma vie à Jésus, comme on dit, je veux le rencontrer, le laisser transformer ma vie pour cette œuvre de la croix. Et je veux être à Jésus. Donne ta vie à Jésus devant cette croix. Et si tu es disciple de Christ, peut-être que tu avais besoin ou tu ressens que cette œuvre de la croix, elle s'enfonce, elle se grave dans ton cœur et dans ton être. Et je crois que c'est fondamental pour les temps qui viennent. Alors prie aussi au Seigneur que cette croix te parle encore et te transforme encore. Que le sang de Jésus, que cette nouvelle alliance, ce sang versé, cette chair brisée, soit pour toi comme un sceau sur ta vie pour être disciple de Christ malgré tes circonstances. Que tu puisses toi aussi à ton tour aimer malgré les épreuves, les difficultés, les rejets, les incompréhensions, les humiliations peut-être que tu as vécues. Alors prends ce temps, prenons quelques secondes, quelques minutes avec Jésus.